Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, les films de la Gorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission consacrée aux dernières sorties vidéo et VOD de nos éditeurs et plateformes préférées. Nous aborderons Misanthrope de Damien Cifron, qui est disponible chez Metropolitan Vidéo. Nous reviendrons sur L'amour est une grande aventure, une comédie tardive de Black Edwards, sortie chez ESC. On causera également des courts et moyens métrages de Wes Anderson qui sont disponibles sur Netflix. Alors il y a La merveilleuse histoire de Henry Sugar, Le Cygne, Le preneur de rats et Le venin. Voilà, on parlera de ces courts et moyens métrages, donc signé Wes Anderson. Et beaucoup moins court, on parlera de grandes fresques tchèques éditées par Artus Film de merveille, à savoir Marketa Lazarova et La vallée des abeilles, des films de František Vlasil. Et, pour terminer, nous causerons d'un des meilleurs films horrifiques récents, j'ai nommé Pearl de T. West, disponible chez Universal Pictures France. L'équipe de Culture Prohibée remercie Juliette Béguet, Kevin Boissezon et Thierry Lopez pour leur aide sur cette émission. Nous vous rappelons que cette émission est réalisée en partenariat avec la revue Prime Cut, disponible sur le site de l'éditeur TheExtasyOfFilm.com et sur celui des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr et enfin chez tous les bons libraires. Pour causer sortie vidéo, sortie VOD, enfin sortie quoi, voilà, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du Temps, disponible sur PodCloud. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Difficile de savoir si je suis un rédacteur en chef misanthrope. Je vais tout de suite poser la question à notre ami Damien Demédi.
Sorti en 2023, donc tout frais et tout récent, le Misanthrope de Damien Cifron est vraiment un film que j'attendais et qui m'a beaucoup surpris. En fait, je ne l'attendais pas à ce point-là, je m'attendais à quelque chose de plus classique, mais il m'a quand même surpris. Donc, de quoi parle le film ? On y suit Eleanor Falco, une jeune patrouilleuse de la police de Baltimore, qui se retrouve un soir mêlée à une scène de tuerie de masse qui est perpétrée depuis un immeuble par un sniper qui va faire une trentaine de victimes. Son profil atypique séduit Geoffrey Lamarck, agent fédéral en charge de cette enquête très médiatisée, et Eleanor est donc recrutée comme agent de liaison entre la police et le FBI. Malgré son inexpérience, Lamarck pense qu'elle pourrait aider à la traque d'un tueur en série très particulier et dans une enquête sans piste réelle. De plus, leur travail est constamment perturbé par les interférences de la hiérarchie des politiques et des médias. Alors que l'enquête piétine, Eleanor va utiliser ses propres troubles pour tenter de comprendre l'esprit torturé du criminel et le retrouver. Alors c'est un trailer qui est extrêmement cool, mais que j'ai trouvé très mal vendu, mais je reviendrai dessus dans un instant parce que je veux vite fait évoquer le réalisateur, donc Damian, qui, comme précédent film, avait fait Les Nouveaux Sauvages, que j'avais beaucoup aimé et qui avait fait pas mal de bruit parce qu'il avait quand même été en compétition au 67e festival de Cannes. Il a également été nommé aux Oscars dans la catégorie meilleur film étranger. Donc au casting, pour jouer Eleanor Falco, on trouve Shailene Woodley, qui j'ai surtout connu pour ses rôles un peu de saga post-ado qu'on connaissait comme Divergente, et Geoffrey Lamarr, qui est joué par Ben Mendelsohn, qui à tous deux forme un duo extrêmement solide qui porte le film, et accompagné par A. Ralph Ineson, qui fait quelques apparitions. Alors j'ai dit que le film était mal vendu parce qu'au tout début il est présenté, quand on regarde les bandes annonces, comme un nouveau Seven, comme un trailer en fait basique où on va poursuivre un criminel avec quelqu'un de particulier pour essayer de le retrouver. Mais la force du récit et du film de Zifron, c'est qu'on a beaucoup d'intrications entre la hiérarchie et les politiciens qui interviennent dans le récit. C'est-à-dire que l'enquête piétine énormément, tout comme le film, mais c'est parce que les héros passent plus de temps à essayer de rattraper les bourdes faites par les autres qu'à avancer. Il offre des plans qui sont très beaux, un étalonnage que j'aime beaucoup, un peu froid et métallique, mais pas dénué de couleurs, et un montage qui nous maintient dans le film avec un rythme constant, mais pas précipité. Et j'aime beaucoup aussi ces dialogues qui sont un peu épars à travers le film. Il y a un moment où les policiers doivent retrouver une veste, un vêtement qui est jeté par le criminel dans une déchetterie. Du coup, ils y vont et lorsqu'ils arrivent sur place, bah, ils se rendent compte que l'entreprise ne trie pas les déchets. Parce qu'on demande aux gens de le faire, mais que l'entreprise en soi n'a pas besoin. Il y a plusieurs éléments comme ça qui viennent étoffer le réalisme du film. C'est-à-dire qu'on a affaire à une tuerie de masse, mais les premiers à intervenir, c'est du coup la partie antiterroriste du FBI. Et pour eux, ils vont tout de suite cibler... La première personne qu'ils poursuivent, c'est un jeune musulman qui a appris à tirer à la carabine le mois dernier avec son oncle. Sauf qu'à ce moment-là, on sait que nous, en tant que spectateurs, qu'on a affaire à un criminel qui est entraîné, qui sait ce qu'il fait, qui fait ça depuis des années. Et on a ce petit jeu de l'ironie dramatique où au final, les héros doivent se retrouvent à poursuivre quelqu'un qu'eux-mêmes savent qui n'est pas le criminel. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans Le Misanthrope, c'est qu'il a un réaliste vraiment étrange dans le fonctionnement des institutions, ou plutôt comment elles sont parasitées. Et il n'échappe pas pour autant le film à certains clichés, mais il produit un trailer de son temps très captivant et parvient même à mettre quasiment sur le même plan délinquant criminel et politicien.
Et on rappelle que ce film Misanthrope de Damian Zifron est disponible chez Metropolitan Vidéo. Have you met Miss Jones? Someone said as we shook hands, she was just Miss Jones to me. Then I said, Miss Jones, you're a girl who understands. I'm a man who must be free. And all at once I lost my breath. And all at once was scared to death. And all at once I owned the earth and sky. Now I'm at Miss Jones. And we'll keep on meeting till we die. Miss Jones.
Moi, je vais vous emmener chez ESC pour vous faire une révélation qui nous est faite par le mythique réalisateur de La Panthère Rose et The Party. Je veux bien sûr parler de Blake Edwards. Et cette révélation, tu sais quoi, Damien ? Eh bien, c'est que l'amour est une grande aventure. L'amour est une grande aventure. Donc, c'est une comédie tardive de Blake Edwards. C'est une comédie de 1989. C'est l'histoire de quoi ? Zag, c'était un écrivain à succès qui a remporté le Pulitzer et qui est un peu voilà, qui est un peu en fait une sorte de d'addict au sexe et un séducteur invétéré, hein, et qui finit par être viré de son domicile conjugal et qui va essayer de reconquérir sa dulcinée. Alors on est là dans l'un des derniers films de Blake Edwards. il en fera deux après, mais enfin, moi, j'ai pas envie de compter dedans La Panthère Rose avec Roberto Benigni, quand même, hein, parce que ça, c'est vraiment pas bon. Mais en tout cas, c'est son avant-dernier film pour le cinéma, qui démarre très fort, qui démarre très, très fort. Alors, même si le personnage principal est campé par un acteur qui est loin d'avoir la grâce d'un Peter Sellers ou voilà, enfin, d'autres acteurs fétiches de Blake Edwards, c'est John Ritter, mais qui est sympathique quand même. Voilà, c'est un acteur plutôt sympathique. Il y a John Ritter qui est. On voit une femme en fait qui rentre dans une maison, une femme élégante. Cette femme monte à l'étage et elle observe donc John Ritter qui est avec sa coiffeuse en train de s'adonner à des jeux sexuels avec le sèche-cheveux, hein, voilà. Donc il est en train de coucher avec la coiffeuse. Elle, qui connaît très bien la maison, donc descend chercher un flingue pour lui régler son compte et elle débarque. Alors lui, il essaye de la persuader, il lui dit c'est pas du tout ce que tu crois. Évidemment, c'est un peu la réplique, la seule qui tombe à dire d'intelligent à ce moment-là. Voilà. Et puis à ce moment-là, arrive une troisième femme qui, en fait, est la femme du héros. Donc là, ça démarre par un jeu de dupes, une scène typique de Blake Edwards où, en fait, déjà, là, on est mort de rire. Hein. C'est-à-dire qu'on on se dit « Oh là là, il est en train de se faire surprendre par... il est avec sa maîtresse, il se fait surprendre. » Mais non. Il est avec la coiffeuse de sa maîtresse le prend très mal, elle le surprend, et la femme débarque, il trouve la maîtresse et la coiffeuse, tout le monde ensemble, voilà. Donc du coup, bon bah évidemment, il finit par être viré de chez lui, et puis il va aller de péripétie en péripétie pour essayer de reconquérir le cœur de sa dulcinée. Alors le film, certes, plutôt mineur par rapport à d'autres grands films de Blake Edwards, mais il se voit avec beaucoup de plaisir. Alors, il ne le fait pas regretter, ce film, absolument pas. La mode vestimentaire des années 80 et la mode capillaire, enfin, je crois qu'au bout d'un moment, il faut arrêter d'être nostalgique de cette époque qui était les années 80. Je vous rappelle quand même, les années 70, c'est le nouvel Hollywood, hein, c'est quand même autre chose. Voilà, bon, je ne vais pas en dire plus, hein, mais là, Stranger Things Mania, ça va bien 5 minutes, hein, quand même. Hein. Donc, là, bon, voilà, ils sont tous habillés n'importe comment, fagotés n'importe comment. Pour ça, c'est pas grave, mais le film est, hormis cela, le film est assez drôle, est assez fandard. Alors, il y a en plus des personnages, le fameux Barrel philosophe, hein, le philosophe de comptoir, qu'on retrouve aussi, qui est une figure du cinéma d'ailleurs très classique américain, puisque c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup chez John Ford par exemple, chez Capra aussi, ce philosophe de comptoir là, c'est un barman. Et puis parce que c'est rigolo, parce que le personnage principal alterne des séances de psy avec son vrai psy est hilarant, hein, voilà, très laconique, très lapidaire dans ses réponses, et avec ce barman qui lui est beaucoup plus volubile, mais qui en même temps lui fait presque plus de bien, hein, qui est lui aussi un grand philosophe, ce barman. Et donc il va vivre des aventures. Du coup, comme il est viré, alors il n'a pas de problème d'argent, hein, ce garçon, il va vivre à l'hôtel, tout ça. Donc on va avoir droit à toutes sortes de quiproquos, des gags à retardement, quand même bien le faire Blake Edwards. Et puis il va coucher avec toutes sortes de femmes, y compris avec une culturiste, parce qu'on est à l'époque du culturisme. Et c'est... Voilà, c'est assez sympathique. Et puis bon, c'est quand même des films. Par contre, là, c'est les années 80 où le héros peut picoler à foison. C'est absolument normal. C'est tout va bien, quoi. Voilà. En fait, il est malade, je pense. Il faut qu'il consulte. Hein. il y a un gag assez incroyable. C'est le gag des capotes fluo. Voilà. Donc, dans ce film, il y a le gag des capotes fluo où le héros veut coucher avec une charmante jeune femme, d'ailleurs, qui vit avec un musicien de hard rock assez ridicule. Et qui supporte pas, qui est hyper jaloux de sa compagne et tout, et puis il finit par presque coucher avec elle, et donc on est entièrement dans le noir, et elle lui demande de se couvrir d'un préservatif, et donc il est obligé de revêtir le préservatif de son, comment dire, de l'amant, enfin non, de l'habituel, on va dire, de cette femme, qui là est absente, puisqu'ils sont encore chamaillés, et notre héros ne demande qu'à réconforter
la jeune femme. Et donc, il se balade dans l'appart. Et on ne voit, c'est dans le noir complet, on ne voit que la capote fluo aux couleurs du drapeau américain, si ma mémoire est bonne d'ailleurs. Parce qu'il y a une capote jaune et il y a une capote bleu, blanc, rouge, je crois, je ne sais plus, ou bleu et rouge. Parce qu'évidemment, l'autre débarque, il met aussi sa capote. Et donc, on voit les deux capotes fluo dans le noir. Bon, c'est très drôle, c'est très marrant, c'est très grivois, oui, c'est très trivial, certes. Mais on se marre bien quand même, c'est quand même une scène assez marquante. Et au final, cette comédie de Blake Edwards, donc L'amour est une grande aventure disponible chez ESC, est une chouette comédie douce amère qui n'atteint pas le niveau des chefs-d'œuvre de Blake Edwards, mais qui est très très agréable à regarder. Vous passerez un très bon moment. Écoutez Culture Prune. Damien, toi, tu es venu alors avec aussi des films qui ne sont pas là, sortis sur support physique. Ah, honte, ah, oh, ah, bon, de la VOD, quoi. Qu'on a tous très beaucoup envie de voir, puisque c'est sur Netflix, et que ce sont les courts et moyens métrages de Wes Anderson, qui est un réalisateur, même si c'est un peu garé durant ses derniers longs métrages pour le cinéma, mais qu'on adore quand même, qu'on aime beaucoup.
Donc on a un ensemble d'adaptations d'histoires de Roald Dahl, avec un très beau casting qui les accompagne. On a Benedict Cumberbatch, on a Ralph Fiennes, Dev Patel, Ben Kingsley, Rupert Finn et Richard Ayoade. Je ne sais pas exactement comment on prononce son nom, mais j'aime beaucoup voir cet acteur. Et donc, on se retrouve avec un moyen métrage qui est La merveilleuse histoire de Henry Sugar, qui est un peu l'introduction à tout l'esprit de l'ensemble, accompagné de quatre autres courts-métrages que j'ai développés au fur et à mesure. Et c'est toujours cool de voir du Wes Anderson. Et là, la particularité, c'est que je trouve qu'il condense un peu, ça condense un peu son talent. Le moyen métrage, ça rappelle beaucoup tout ce qu'il fait dans ses films, mais le fait de l'avoir sur une période très courte, ça donne c'est un peu un résumé de sa capacité d'écriture et en même temps de ce monde à la fois réaliste au niveau des sentiments des personnes et un peu fantastique qu'il arrive à offrir, et la merveilleuse histoire de Henry Sugar n'y échappe pas. Et derrière, on a d'autres courts-métrages, notamment Le Signe, qui est une histoire extrêmement poétique et extrêmement minimaliste, plus que ce que Wes Anderson fait d'habitude, comme s'il cherchait à essentialiser son propre travail. Ce qui me fait un peu penser au Preneur de rats, qui lui, pareil, bouge très très peu, on est quasiment sur le même lieu, mais où il s'essaye à un style un peu plus horrifique, avec un malaise permanent. Le chasseur de rames, que je trouve, fait beaucoup penser à Ahab, le chasseur de Moby Dick. Les deux ont la même obsession pour la créature qui poursuivent, nous offrant à chaque fois des performances assez incroyables. Le preneur de rats étant joué par Ralph Fiennes, qui est hideux, parce que son déguisement est hideux, parce qu'on essaye de le faire ressembler à un rat, vu qu'il est... Il est ce qu'il chasse et non ce qu'il mange. Enfin, j'espère, sinon c'est absolument dégueulasse. Et mon préféré, celui qui m'a vraiment marqué et que j'ai vu en bout de course, est le Venin. Car dans ce petit court-métrage, il adapte un style quasiment thriller, mais avec le style Wes Anderson, et ce qui étrangement marche formidablement bien. On a une tension constamment présente pour une histoire qui fait moins de 20 minutes et qui arrive à aborder, justement à avoir cette tension de huis clos avec quelqu'un en danger de mort, et en même temps à évoquer le racisme des colonistes, qui est assez étrange quand on regarde à Wes Anderson, mais qui est vraiment palpitant. Et au final, j'ai l'impression que le réalisateur utilise ses courts-métrages pour développer son univers. Et même si les quatre à suivre peuvent être redondants, vu qu'on se retrouve constamment avec un univers minimalisme un peu en mouvement et souvent des répliques. Par exemple, quand un acteur va parler, il va ponctuer la fin de sa phrase par « dit-il » ou alors « cria-t-il ». Mais pour moi, ce travail avec Netflix permet à Wes Anderson, en fait, de s'exercer à d'autres styles, comme j'ai essayé de vous l'expliquer, c'est-à-dire que Le Preneur de rats est proche quasiment d'un petit film d'horreur, Le Venin est proche d'un trailer, Le Signe est beaucoup plus dramatique, et au final, on se retrouve avec de beaux bijoux à retrouver sur Netflix.
Autre merveille, après les courts et moyens métrages de Wes Anderson disponibles sur Netflix, mon cher Damien, nous allons parler d'un cinéaste qui s'appelle František Vlasil. František Vlasil, qui est un cinéaste que nous permet, moi j'avoue, je ne connaissais pas František Vlasil, que nous permet de découvrir Artus Film. Artus Film via donc deux films de František Vlasil, deux films parmi ses plus personnels de ce grand cinéaste tchécoslovaque. Oui, parce qu'avant, les amis, il n'y avait pas la Tchéquie et la Slovaquie, il y avait la Tchécoslovaquie, voilà. Deux films de 67, mais le premier à être fait et tourné, c'est Markéta Lazarová. Alors Markéta Lazarová, qui bénéficie du plus beau coffret sur les deux films, là, avec un très beau livre de 64 pages qui s'appelle František Vlasil, l'esthète des contrastes, qui est signé de Christian Lucas, dans lequel on apprend beaucoup de choses. Le livret est très complet, il nous permet de faire connaissance avec ce grand cinéaste un peu tombé dans l'oubli, parce qu'il était très réputé quand même à l'époque, qui débute dans l'animation en Tchécoslovaquie. L'animation tchécoslovaque, c'est tout un univers, toute une école, voilà. On en a déjà beaucoup parlé dans Culture Prohibée. Et puis après quelques documentaires, quelques films, dont certains au service du ministère des Armées, quelques boulots de propagande, voilà, il se met à faire Vlasil, il intègre les studios Barrandov, des studios mythiques, puisque c'est les studios des frères Havel, on connaît Vaclav Havel, qui va finir par devenir un grand dirigeant politique, et il signe en 1960 La Colombe Blanche et Diablova Past en 62, et c'est ces deux films-là qui vont faire de lui un cinéaste réputé, que je n'ai pas vu, je vous le dis, je n'ai pas vu, mais du coup je vais partir, peut-être que Artus Film va les éditer, mais sinon je vais partir à leur recherche activement, et à partir de là, sa réputation fait qu'il peut s'attaquer à un grand projet qui lui tenait particulièrement à cœur, c'est l'adaptation d'un roman de Vladislav Vankura qui est Markéta Lazarová. Alors ce roman est réputé absolument inadaptable. Voilà. Donc lui, il va travailler 4 ans, František Vlasil, pour adapter le roman de Vladislav Vankura avec le concours de Vankura, qui va en tirer un film épique, un film incroyable, un film bouleversant, et presque un film de plasticien d'ailleurs. Enfin, c'est un film assez démentiel. Alors, je vais essayer de vous résumer l'histoire. Alors, ça se passe au XIIIe siècle. Miklos et Adam sont les fils du chef du clan Kozlik, et ils attaquent un convoi et capturent Christian, le fils de l'évêque de Hainaut. Alerté, le capitaine du roi prépare une offensive contre le clan des voleurs. Kozlik va alors demander de l'aide à Lazar, le chef d'un clan rival. Et devant le refus de ce dernier, Mykolas enlève Marqueta, la fille de Lazare. Il faut croire que dans le camp Kozlik, l'enlèvement, c'est un sport national. Voilà. Et à partir de là, va se dérouler un film servi par un noir et blanc magnifique, le travail du chef opérateur, la Bedrick Batka, il est incroyable, qui est une sorte de vraie fausse chronique moyenâgeuse, comme ça, parce que c'est en même temps moyenâgeux et en même temps très... côté presque irréaliste, pas surréaliste, mais irréaliste. Hein, c'est-à-dire que on est vraiment, même dans le surréalisme, parce qu'il y a beaucoup de symbolisme, il y a beaucoup d'essais, c'est presque expérimental, hein, sur le montage par moment, enfin c'est assez... C'est typique aussi d'un certain cinéma soviétique de l'époque. Voilà, mais quand même, c'est très, très impressionnant. Et le film a clairement... c'est une sorte d'épopée guerrière poétique. C'est quelque chose de très, très étrange. C'est très difficile à décrire. Hein. On est deux à avoir vu le film. C'est une expérience visuelle, sensorielle de tous les instants. C'est un immense film, hein, et c'est un film aussi d'une grande puissance érotique, je trouve, ce film, qui décrit quand même un monde, assez obscurantiste, quoi, hein, où il y a des, qui est vraiment tombé sous la domination du christianisme allemand. Et puis parallèlement à cela, il y a Marqueta Lazarova qui est interprétée par Magda Vazariova, qui est très impressionnante. Mais en fait, c'est le parcours de deux femmes que l'on suit. C'est-à-dire que chacune appartenant à un clan, il y a aussi Alexandra que l'on suit, qui est l'autre personnage féminin. Alors la caméra de Vlachil est virtuose. La musique de Zdeněk Liska, elle est complètement fascinante. C'est vraiment un film qui peut s'apparenter parfois à une série de tableaux, qui n'est pas figé, hein, qui est un film assez assez extraordinaire. Et on ne peut s'empêcher, en voyant ce film, de penser à Tarkovsky et à son Andrei Roublev. Hein. Donc on est vraiment face à du cinéma un peu d'une autre dimension, typique de ce que pouvait produire avant une reprise en main. J'en parlerai pour le film suivant, du pouvoir soviétique, mais où il y avait encore cette latitude malgré tout, même si on était sous des régimes autoritaires, il y avait quand même une latitude qui était laissée. Et puis la qualité de ce cinéma était la vitrine aussi de ce type de régime. Et donc on voulait prouver qu'on était capable de faire du grand cinéma. Et là, en fait, en créant sa propre esthétique, parce que c'est des films qui ont une esthétique qui leur est propre quand même, hein, qu'on ne voit nulle part ailleurs et qu'on n'a pas revu depuis. Et Marqueta Lazarova est donc un immense film, une véritable déflagration, un choc visuel, sensoriel. Mon cher Damien, je ne sais si tu as été emporté comme moi par ce film magnifique qu'est Marqueta Lazarova. Écoutez Culture Prohibée spéciale sortie vidéo. Thank you.
Le film est une épopée en soi, une épopée médiéviste. Comme tu l'as dit, Jérôme, on a affaire à un film très long. Il fait 2h45, on n'est pas loin de 3h. C'est un film qui est aussi beaucoup découpé en deux parties, mais il y a beaucoup de cartons qui remplacent des scènes d'action ou des dialogues. Mais l'entrée dans le film, on plonge immédiatement dedans parce que, en effet, c'est un film en noir et blanc. Et la première image qui nous accueille, c'est un long plan avec une forêt un peu sibérienne, de la neige et quelques plans sur des loups. Et ça donne un peu immédiatement l'idée de ce à quoi on va avoir affaire. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont dans des coins un peu reculés. Donc le pouvoir se joue directement sur place, même s'il y a un roi, on voit qu'il galère à imposer un peu son pouvoir. Et c'est pour ça que Lazare, au final, se retrouve mêlé à tout ça, sans avoir une très grande force de frappe. Lui compte beaucoup sur le roi. Donc on a un film très très beau. On a quelques audaces, je trouve, pour l'époque. C'est-à-dire qu'on a quelques plans de caméra subjectif où on est à la place des yeux des personnages, et c'est un film qui a beaucoup marqué, notamment parce qu'il a fait le tour de quelques festivals. Je crois qu'il est lauréat de celui d'Édimbourg, il a été sélectionné dans la quinzaine des réalisateurs à Cannes. C'est d'ailleurs un film qui a été considéré en 1998 comme le meilleur film tchèque de tous les temps. Donc c'est un film qui a beaucoup de renommée et ça se voit. C'est un film qui est magnifique, qui essaye d'aborder des thématiques assez lourdes. Tout l'enjeu autour de Marquetta qui, certes, a son nom dans le titre, mais qui apparaît un peu plus tard dans l'intrigue, qui de base est destinée, elle, à devenir nonne. Mais pour devenir nonne, il faut de l'argent. Et en même temps, il y a le voisin qui demande à Lazare d'intervenir, et au final, elle se retrouve prise un peu dans ce conflit, régional. Et c'est un film qui aborde quelques thématiques, notamment la foi et le destin, qui se voit à travers ce qui arrive à Marquetta et au travers des personnages qui l'entourent. Alors, j'ai pas compris tous les choix forcément qui étaient faits. Au niveau de certains personnages, notamment avec ce qui arrive à Marquetta, la façon dont elle se détourne du chemin qui lui était destiné. Mais c'est un film très intéressant dans le développement des personnages, et les mots du père ricochent indirectement sur les enfants, que ce soit pour Lazare et ses fils et sa fille, ou pour son rival qui a des enfants très violents et assez particuliers.
C'est aussi le côté parabolique de ce cinéma. Ce sont les enfants qui expient les péchés des adultes, c'est-à-dire que cette jeunesse prisonnière d'un régime totalitaire ou d'une forme de totalitarisme, quoi. Mais évidemment, alors on peut lire les films comme ça, puisqu'on peut y lire une critique de ce qu'était l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques. On peut le voir comme ça, mais on peut aussi considérer que c'est un discours sur la foi aussi, hein. Ce sont des thèmes, de toute façon, qu'on retrouve dans le film suivant, qui est aussi édité par Artus Film. Le film est également présenté par Christian Lucas, mais cette fois-ci, il n'y a pas de livret avec. Ça s'appelle La Vallée des Abeilles. C'est aussi, évidemment, un film tchécoslovaque. Et c'est aussi de 67, ça sort en même temps. Enfin, la suite, il l'a tourné beaucoup plus vite. C'était beaucoup moins compliqué aussi d'adapter, là, cette fois-ci, le roman de Vladimir Korner. Alors, l'histoire est simple, on est au XIIIe siècle. Il y a une mauvaise plaisanterie de fête lors du mariage de son père, et Ondrej est envoyé dans une commanderie templière afin d'intégrer l'ordre chevaleresque. Oh, ça te déconne pas, tu plaisantes pas au mariage de papa, sinon t'es envoyé dans une commanderie templière. Voilà. Et quelques années plus tard, il s'enfuit pour retrouver le château familial. Son ami Armin, extrêmement dévoué à l'ordre chevaleresque, a pour mission de le ramener, dans tous les sens du terme, y compris sur le droit chemin spirituel, moral. Et une fois de plus, on peut voir ce film comme un film parabole, hein, c'est-à-dire j'ai pour mission de te ramener sur le droit chemin. Il subit quand même, puisque c'est lors du mariage de son père, à cause d'une plaisanterie, il se retrouve, comment dire, à intégrer une commanderie templière. Donc il subit la, l'autoritarisme abusif des plus anciens que lui. Et il n'a pas le droit de suivre sa propre voie. Il est obligé, de se conformer à l'ordre chevaleresque. Et pour cela, on va lui envoyer son ami pour le récupérer. Enfin, c'est quand même assez violent dans ce que ça raconte. Et c'est effectivement, on peut y voir une parabole, encore une fois, de la situation politique de l'époque. Alors, il y a ça, mais on peut aussi, tout simplement, admirer la fresque, admirer la beauté des images, parce que quelque chose que je n'ai pas dit tout à l'heure, c'est que Vlachil, lui, il a, contrairement à tous ces grands réalisateurs de l'époque, je parlais de Tarkovsky tout à l'heure, parce que là, on pense encore à Andrei Rublev, il n'a pas fait d'études, il n'a pas fait d'école de cinéma, en fait, lui. Il est atypique par rapport aux autres. Il a fait une école d'art. Il a étudié l'histoire de l'art et l'esthétique. Bon, ça paraît évident quand on voit ces films, hein, qui sont des grands tableaux mis en image, voilà, de manière assez fascinante. Alors, attention, c'est pas des films de poseur. Enfin, on n'est pas sur le grand tableau parce que la caméra bouge dans tous les sens. C'est hyper. Ça rappelle pour moi l'énergie, la force d'un Mikhail Kalatozov, par exemple. On est sur quelque chose d'assez fort, d'assez extraordinaire. Voilà, il est sur le même type de film que Margareta Lazarova. On a des images magnifique, on a la violence aussi de cet ordre chevaleresque à travers le personnage d'Armin, qui est quand même, comment dire, sont un peu des extrémistes, parce qu'on le voit à un moment, ils sont confrontés à des curés, un curé différent, enfin, un curé qui lui est plutôt pour la paix sociale. Enfin, il faut voir le film pour comprendre. Et en fait, le personnage d'Armin, il symbolise une sorte de fanatisme, quoi, et le dévouement, en fait, un dévouement sans bord, donc un fanatisme absolu, quoi, qui peut aujourd'hui être rapproché d'autres fanatismes. C'est des films qui certes sont de leur époque, qui certes sont des films qui se passent au Moyen-Âge, mais dire sont de leur époque dans leur esthétique si particulière de ce qu'a été le cinéma des pays de l'Est, d'une grande puissance visuelle avec un souffle incroyable, en plus, dans celui-là, il s'amuse avec la symétrie. Enfin bon, la mise en scène est assez extraordinaire. Qu'est-ce qui est le plus important, en fait, dans une société? Est-ce que c'est la foi? Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est la fraternité? Est-ce que c'est l'amitié? Enfin, ça pose plein de questions, en fait, ce film. Ça n'y répond pas forcément, d'ailleurs. Hein. Il faut aller chercher au fond de nous-mêmes. C'est aussi un grand film, même si Margareta Lazarova est d'une autre dimension. Celui-là est un très grand film, l'autre est un chef-d'œuvre. Hein. Voilà, c'est un très grand film quand même. Hein. Il faut voir les deux de toute façon. Alors après 68, ça va être plus difficile pour František Vlachil en Tchécoslovaquie, puisque la grande URSS va tout cadenasser, hein, dans toutes ses composantes, et elle va évidemment s'en prendre plus grandement à la liberté d'expression. Elle va s'apercevoir qu'en fait, sous couvert de faire des films au service de la propagande, certains réalisateurs faisaient passer d'autres messages, et Vlachil ne retrouvera en fait plus jamais la liberté qu'il avait et la grâce qui a animé ses premiers films, dont les deux que nous venons d'évoquer, respectivement, ces deuxième et troisième longs métrages, si je ne m'abuse. En tout cas, ces deux films, La Vallée des Abeilles et Margareta Lazarova, sont à voir absolument. C'est disponible chez Artus Film, et vous pouvez même les trouver sur le site des Films de la Gorgone, www.lesfilmsdelagorgone.fr.
Vous écoutez Culture Prohibée. Cher Damien, après le cinéma soviétique, eh bien, nous allons aller chez l'ennemi. Eh oui, nous allons parler du cinéma états-unien, du cinéma américain. On va faire un petit retour en arrière. On va se replonger en 2022, il y a un certain T. West, on le connaît bien, hein, puisque nous on parlait déjà dans la saison 1 de Culture Prohibée de son film The House of the Devil. Depuis K1K, l'ami Ty West, si on le prononce avec l'accent qui va bien, a réalisé pas mal de films, on en a parlé régulièrement dans l'émission. Et puis on vous avait parlé en 2022 de ce film X, ou Hex, c'est pareil si on le prononce comme il faut, qui avait été un film assez fun, assez vraiment excellent, une mise en scène très travaillée, une ambiance très singulière, qui racontait le tournage d'un film X, donc, mais qui était tourné dans une grange qui appartenait, qui était louée par un couple de vieux, de personnes âgées, de vieux fermiers. Et sauf qu'en fait, ça allait se transformer en une sorte de slasher réflexif où les vieux fermiers, et en particulier la fermière, une certaine Pearl, allait se révéler, complètement fracassée et débitée du petit jeune. Parce que cette vieille dame, elle allait être émoustillée par celle qui était l'actrice principale de ce film X, qui était en train de se tourner dans sa grange. Une actrice principale qui lui rappelait elle jeune, puisque forcément c'est la même actrice, Mia Goth, qui jouait à la fois la vieille dame sous une épaisse couche de maquillage et qui jouait cette jeune actrice, Maxine, cette jeune actrice de film pornographique, qui voulait devenir une star. Et on découvrait lors du final de X que, effectivement, elle avait eu un parcours atypique. Et que donc, évidemment, on comprend encore mieux pourquoi, pour cette vieille dame, elle faisait écho à son propre parcours. Alors, à partir de là, Ty West nous dit qu'il va nous faire une trilogie avec Mia Goth, son actrice fétiche, là, qui est extraordinaire. Et il se trouve que Mia Goth et lui, quand ils ont préparé le film X, ont développé le personnage de Pearl. Voilà, cette vieille dame, ils ont développé, et ils lui ont imaginé un passé. Et c'est lors de ces discussions qu'ils se sont dit, mais faire une suite au film, d'accord, mais est-ce qu'on ferait pas plutôt une préquelle où on raconterait justement l'histoire de cette vieille dame plutôt que de faire une suite qui se passe après le premier film. Et donc, ils sont partis, ils ont tourné dans la foulée ce Pearl, le film dont on va parler aujourd'hui, donc Pearl qui est sorti chez Universal en Blu-ray et DVD. Pearl qui est interprétée par Mia Goth, mais cette fois-ci sans maquillage, au naturel, puisque là, elle n'est pas vieille, mais elle est jeune. Voilà, cette Pearl. Et cette Pearl, on la retrouve donc très très jeune. Dans le premier plan du film, en fait, fixe les enjeux, c'est assez fascinant, parce que le premier plan de X ouvrait sur un plan en 4/3, qui était en fait les portes d'une grange, pour bien nous amener à l'époque où on était, puisque c'était le 4/3, le format privilégié qui était alors utilisé en particulier pour le tournage des loops et des films X qui étaient au centre de ce film. Et là, tout de suite, on repart de ce même plan quasiment. Et puis, la caméra va pas noter. On va découvrir en fait qu'on est dans un grand plan en scope très coloré. Ça n'a rien à voir. Il faut savoir que Ty West a hésité. Ils ont hésité à le tourner en noir et blanc. Et puis, en fin de compte, c'est un hasard technique qui a fait qu'ils ne pouvaient pas le tourner en noir et blanc, c'était techniquement pas possible. Alors, du coup, ils sont orientés vers la couleur. Mais alors, sur la couleur pétante, ils se sont dit, puisque le film se passe dans le passé, il va être dans des couleurs
proche du Technicolor, et dans un formatscope. Et tout y passe, hein, même le lettrage du titre, la manière de présenter les personnages et tout ça, voilà, tout y passe. Et donc on retrouve Pearl, elle est jeune, alors on est en 1918, elle est donc au Texas, évidemment, dans la ferme familiale. Elle a une maman qui parle allemand et anglais, donc on devine que ce sont des immigrés allemands qui goûtent assez mal ce qui est en train de se passer de l'autre côté de l'Atlantique. Hein. À un moment, elle le dit... arrête de parler de ça, j'en ai marre d'entendre parler en mal des Allemands, enfin, elle lui dit quelque chose comme ça. Et puis, Pearl, elle s'occupe aussi de son papa qui a, très certainement contracté la grippe espagnole, qui est dans un état végétatif, la grippe espagnole qui revient tout le temps dans le film, l'épidémie venait de passer, la maman... alors du coup, ça fait écho avec le Covid en plus, puisque la maman, elle lui dit tout le temps de mettre le masque, de détruire les germes, de se désinfecter, voilà, pour éviter que son père ce soit pire pour lui, quoi. Et puis qu'elle l'attrape, que lui l'attrape, enfin bon, bref, parce que si tout le monde l'attrape, en plus du père, la ferme va se casser la gueule, parce que là, c'est quand même une femme qui tient à elle toute seule la ferme. Et puis Pearl, en fait, elle est mariée. Elle est mariée, mais son mari n'est pas là, il est à la guerre. Il est de l'autre côté de l'Atlantique, il est dans les tranchées. Et Pearl s'ennuie. Pearl, c'est une jeune fille, elle doit avoir la vingtaine, hein, à peu près. Elle rêve de devenir danseuse, elle rêve de devenir actrice. Elle se voit en future star de cinéma, star hollywoodienne. Et elle va d'ailleurs en cachette au cinéma du coin pour regarder des revues filmées, pour regarder aussi les actualités. Enfin voilà. Et puis, elle décide de participer à une audition qui va un peu tout faire basculer, même si on sentait bien que tout n'allait pas bien dans la tête de Pearl. Pearl, qui, étonnamment, X est sorti au cinéma en 2022. Pearl aurait pu sortir dans la foulée. Il n'est pas sorti, il est sorti directement en vidéo. Moi, je le dis haut et fort. Pour moi, Pearl est encore supérieur à X, qui avait été un vrai événement critique. Pour moi, Pearl est encore au-dessus. Il y a un travail de mise en scène, il y a une sophistication qui est pour moi plus poussée encore que dans le X. Et puis il y a, pour moi, elle porte le film sur ses épaules, puisque tout tourne autour d'elle, il y a Mia Goth qui est sensationnelle. Alors elle a co-écrit le film, bon évidemment elle s'est réservée le grand rôle, mais elle le mérite, hein, parce qu'elle est extraordinaire dans le rôle de... Il faut regarder le film en VO, hein, par contre, hein, ne me faites pas le coup de la VF, hein, regardez le film en VO pour prendre conscience du talent de Mia Goth, parce que d'autant plus que Mia Goth, dans la vie de tous les jours, elle parle pas du tout comme elle parle dans le film. Et je me suis rendu compte en visionnant les maigres bonus. C'est pas beaucoup de bonus, par contre, ils se sont pas foulés, hein, sur l'édition Blu-ray DVD. Là, il y a deux petites featurettes, mais on voit, on entend parler un accent à couper au couteau, pas du tout qui ressemble pas du tout à la langue qu'elle emploie dans le film. Donc, il y a un vrai travail d'actrice. Il faut vraiment regarder ça en VO. Et dans son entourage à Pearl, on se rend compte que les gens la trouvent un peu... Enfin, on sent que c'est une bombe prête à dégoupiller quand même. Hein. Sa mère en parle un peu, tout ça. On sent qu'elle a quelque chose à l'intérieur. Alors, est-ce que c'est cette libido qui n'est pas satisfaite? Puisqu'en fin de compte, dans le X de T. West, c'est un problème de libido qui va amener notre mamie à complètement dérailler. Mais on découvre dans Pearl... Elle n'a pas déraillé que âgée, elle a déraillé très tôt, voilà. Et au début, le film est presque une chronique douce amère de cette époque, où on sent bien que Pearl, elle est en but par rapport à sa mère, même si elle a un intermède étrange de ce moment où elle tue une oie comme ça de manière totalement gratuite, elle va la donner à manger à un crocodile, parce qu'ils ont un crocodile en fait, ils habitent derrière un marais où il y a un crocodile, qui je pense dans le premier film était un petit hommage au crocodile de la mort de Toby Hooper, puisque tout le film, et même dans Pearl, hein, y a des plans de massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper qui sont repris aussi dans Pearl. Hein. À un moment, elle poursuit quelqu'un en pleine rue pour la taillader, une personne pour la taillader. C'est un, même si elle n'a pas une tronçonneuse à la main, c'est un plan qui est quasiment le même que le plan final, enfin l'un des derniers plans, pas le plan final, mais l'un des derniers plans de massacre à la tronçonneuse. Et au début, à part cet incident avec Loi, elle est tellement charmante, Pearl, elle est tellement rigolote, elle est tellement pleine d'esprit, elle est drôle, elle a un quotidien pas facile, donc on a vraiment, on la voit danser, s'essayer à des danses et tout. Au début, c'est presque le feel-good movie. On se dit, elle va y arriver, elle va y arriver. Bon, on sait qu'elle va pas y arriver parce que c'est Ti West qui fait le film, mais on se dit, voilà, il y a possibilité pour elle. Et puis, elle va à la ville, elle rencontre ce projectionniste qui lui donne un petit bout de pellicule, d'ailleurs, qu'elle garde en souvenir. Et quand elle repart, elle s'arrête et elle voit cette comment dire, référence au Magicien d'Oz, évidemment. Hein, elle voit cet homme de paille, elle voit cet épouvantail qui est là, et elle entame une danse avec cet épouvantail. Et la scène de presque bucolique et magique devient une scène absolument effrayante, épouvantable, en fait, très malaisante. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a un petit truc qui est déréglé dans le cerveau de Pearl, parce que le final de cette danse est quand même assez équivoque et très particulier. Voilà, on va pas en dire plus. Et puis, bon, bah voilà, on va découvrir petit à petit que tout est déréglé. Je vais pas vous en dire beaucoup plus. C'est un film, moi, que j'ai trouvé assez extraordinaire. Je pourrais développer, mais je vais quand même laisser mon ami Damien parler un peu sur le film, quand même, parce qu'il l'a vu. Et donc, Damien, qu'as-tu pensé de la belle Pearl? Est-ce que tu partirais, toi, est-ce que tu, en rentrant de la guerre, tu t'installerais avec Pearl pour vivre tranquillement une petite bluette amoureuse dans une petite ferme isolée du Texas?
Clairement pas, mais ça c'est parce que j'ai vu X avant, qui n'a rien à voir avec Twitter, hein, bien évidemment. L'un des points qui est malin avec Pearl, c'est de faire une suite qui est un préquel, et c'est quelque chose qui est extrêmement malin. Enfin, quand on fait une trilogie, c'est intéressant de faire du deuxième film un préquel, parce que comme ça on peut développer l'histoire sans être gêné par le fait qu'il faut attendre le troisième film. C'est quelque chose que je reprochais au Halloween de Gordon Green, qui est tu fais ton 2, mais tu peux pas l'achever parce qu'il faut que tu finisses le 3 derrière. Alors X, j'avais trouvé excellent. Pearl est tout aussi excellent. Beaucoup de personnes le considèrent comme supérieur au premier. Je n'en fais pas partie pour l'instant, mais il faudra sans doute que je regarde. Et l'une des particularités, une des forces du travail de Ti West actuellement sur cette trilogie, c'est que j'ai l'impression qu'il arrive à corriger tous les défauts des suites à Massacre à la tronçonneuse. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a réussi à comprendre Massacre à la tronçonneuse, qui ne fait pas un Massacre à la tronçonneuse, mais qui sait comment marche finalement ce... Je ne sais pas si on peut parler de Hillsploitation, mais qui est un peu l'idée de ces gens dans la campagne américaine et de la façon dont ils fonctionnent. Et il arrive à utiliser les paysages, les personnages, les thématiques pour indirectement les retourner contre eux. Et c'est quelque chose qui marche à travers l'esthétique, beaucoup dans X, encore plus dans Pearl. Comme tu l'as dit, on a un esthétique... avec des couleurs qui ressortent et tout, quelque chose qui rappelle le Magicien d'Oz, comme le film, ce qui fait que c'est un film qui est extrêmement, enfin, qui a pas mal de références et qui arrive à en jouer extrêmement bien, sauf que Pearl, c'est un peu l'anti Magicien d'Oz, pas de chaussures rouges pour aller voir le magicien et régler tous ses problèmes, malheureusement pour elle. Et c'est un film donc qui a compris les films dont finalement il descendait, qui arrive à jouer à son esthétique autour et qui arrive à appliquer des références très moderne, c'est-à-dire que on a la grippe espagnole qui se répand, et ce qui est intéressant, vu que la grippe espagnole se répand beaucoup du coup autour de 1920-2020, on a un siècle d'écart, mais on arrive à jouer sur des thématiques qui sont très proches, notamment le fait que Pearl se projette elle comme danseuse quand elle est chez elle, tout ce qu'elle veut c'est devenir danseuse, et au final une fois qu'elle est face à la compétition, elle est rejetée, non pas parce qu'elle danse ou chante mal, elle est rejetée parce qu'elle ne correspond pas aux critères que les producteurs veulent avoir. Et c'est un truc que tu peux mettre en parallèle, on va dire, aujourd'hui avec TikTok, avec le fait que tu danses chez toi et tout, mais ce n'est pas parce que tu es un influenceur qui a du succès que tu vas finir au cinéma. Et généralement, les films dans lesquels ils finissent ne sont pas tip-top. Ce qui est triste pour Pearl, et tu en as parlé, c'est que nous, on le reçoit en direct tout DVD, mais c'est lié au fait que X de base devait sortir en 2021. Finalement, il est sorti en 2022. Nous, on l'a eu en salle fin 2022, sauf que du coup, Pearl est sorti début 2023 aux États-Unis. Et en fait, y a ce décalage de sortie a fait que le film était sorti des mois à l'avance aux États-Unis. Et ce qui a joué, je pense que c'est la peur de beaucoup de distributeurs aujourd'hui, qui est que quand tu sors un film dans un autre pays et qu'il a plusieurs mois de décalage, t'as la peur qu'il ait déjà été piraté et du coup qu'il ne fasse pas tes entrées en salle. Et du coup c'est extrêmement frustrant, parce que vu que Pearl comprend son médium, comprend le cinéma, c'est très frustrant pour moi qui n'ai qu'un ordinateur chez soi, de le regarder sur un petit écran d'ordinateur, alors qu'en salle il aurait été encore plus prodigieux. Mais voilà, c'est la seule tristesse que j'ai autour du film.
Mais Pearl, pour moi, c'est le meilleur film horrifique de ces 2-3 dernières années. Avec She-Will dont on avait parlé, c'est vraiment pour moi c'est du grand cinéma horrifique qui retrouve la veine, la force, le côté subversif qu'avait le cinéma des années 70, cinéma horrifique de la grande époque et puis le cinéma américain tout court. Donc je dis bravo à Ty West, surtout que moi j'étais pas un Ty West maniaque forcément. J'étais très divisé, j'aime pas du tout The Sacrament par exemple. Enfin, il y a des films de lui que j'aime pas du tout. Là je trouve que là il a atteint des sommets, donc bravo à Ty West. Ça s'appelle Pearl, c'est disponible chez Universal. Et on ne sait pas qu'on vous le recommande vivement, c'est obligatoire. Voilà, à avoir dans sa vidéothèque.
I do like you, I just...
Tell me the truth! Why are you leaving me? What did you see? Why did you change?
You're scaring me, Pearl.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et la revue Prime Cut. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé, dit La Bête Noire de Compiègne. And the last but not the least, je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.